Bienvenue dans votre grande table des idées. Aujourd'hui, le talent avec le sociologue Pierre-Michel Menger, professeur au Collège de France, auteur déjà du travail créateur en 2009 et d'une sociologie des intermittents du spectacle. C'était en 2011, système dont il soulignait déjà le caractère inégalitaire. Aujourd'hui, il publie au PUF Le talent en débat, une analyse de ce concept vieux comme le monde, revalorisé par la Silicon Valley, pays du talent traffic, remis au goût du jour aussi par les grandes entreprises qui se disputent pour recruter les talents du secteur par le football mondial où le talent des joueurs de foot s'échange et s'acquiert à quelques centaines de millions pour les transferts les plus réussis. Par la télé, enfin, le divertissement en quête d'incroyables talents, en quête de The Voice ou d'un Masterchef. Bonjour à vous Pierre-Michel Menger.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et à vos côtés, la cinéaste Claire Simon, qu'on avait reçue à l'occasion de la dernière Berlinale. En sélection, son film Première Solitude arrive bientôt en salle. Mais le talent était aussi et surtout une valeur qui traversait son dernier film documentaire Le Concours sur les épreuves d'entrée à la FEMIS, la très sélective école de cinéma de Paris. Bonjour Claire Simon.
Bonjour.
Quelle est votre définition du talent à vous, Claire Simon, comme ça, simplement?
C'est difficile.
Il y en a qui en font des livres, justement.
Mais c'est aussi un mot qui est comme un sésame, quoi. C'est-à-dire... bien sûr, on est. C'est un mot qui veut dire qu'on admire et tant de possibilités. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un mot qui n'est pas qui couvre des choses qui ne sont pas nommées, quoi, et qui sont évidemment pas difficiles à évaluer. Voilà. Et puis le talent, là, tel qu'il est. utilisé dans les entreprises, etc., c'est quand même beaucoup quelque chose qui est considéré comme une chose en soi et pas comme quelque chose qui bouge, qui apparaît, qui disparaît, etc., quoi.
Pierre-Michel Menger, comment savoir si j'ai du talent? Vous écrivez que cette définition, celle de ce terme, est instable et controversée. Vous en faites aujourd'hui un ouvrage collectif que vous dirigez, Le talent en débat, où vous explorez toutes les facettes de ce talent, la manière dont ce terme est utilisé aujourd'hui, comment il est valorisé. Mais vous comprenez qu'on a d'abord tous besoin d'être fixés sur une définition du mot. Vous vous y essayez?
Oui. C'est un vocabulaire qui a un paradoxe parce que l'origine, c'est le mot talent en grec qui voulait dire une unité de mesure et de poids. Or, donc, on avait une mesure bien précise de quelque chose et puis ça a été transporté à travers la parabole des talents et d'autres aventures, de ce que très longue aventure sémantique et étymologique du terme, vers une notion qui qualifie des capacités et qui qualifie a posteriori ce qu'on reconnaît avoir été démontré par l'activité de quelqu'un. S'il a réussi de manière, ou s'il commence à réussir de manière très prometteuse ou spectaculaire, on va lui imputer du talent. Mais pour aller un peu plus loin que ça, il faut ouvrir la boîte noire. Et ça, c'est un exercice intéressant. Si je voulais donner une seule définition possible du mot, vous allez comprendre à quel point elle est redoutable. Je dirais que c'est un différentiel. C'est ce qui fait la différence dans une épreuve donnée de jugement, d'attribution de valeur, d'analyse de capacité, etc., etc. Autrement dit, c'est quelque chose qui est indexé sur qu'est-ce que va devenir l'individu à qui on peut éventuellement prêter du talent et qui ne se réduit pas simplement à une formation ou à quelque chose, à un diplôme, mais peut-être à d'autres qualités. Et de l'autre côté, qu'est-ce que l'individu sera capable de développer si on le met dans de bonnes conditions, évidemment. Donc, il faut à la fois identifier ce qui fait la singularité de chacun, ce qui est une définition plutôt horizontale, et en même temps s'assurer que chacun puisse trouver, à travers une égalité des chances, suffisamment bien organisée, ce qui est un problème très lourd, des moyens de se développer.
Le talent, aujourd'hui, Pierre-Michel Menger, est un différentiel, comme vous le dites, mais c'est aussi une monnaie universelle de cotation des personnes dans le travail qualifié, faiblement routinier et à fort potentiel formateur. Mmh. Avant de voir avec vous comment le talent circule, peut-être pour avancer sur ce chemin pavé d'obstacles et de bonnes intentions, qu'est la définition du talent, il faut en revenir aux sources, et vous venez de l'évoquer avec l'évangile de Matthieu et la parabole des talents.
Car le royaume des cieux est semblable à un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, deux à l'autre. Et un au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître.
Alors ça, c'est le début de l'histoire, Pierre-Michel Menger. Et la morale, c'est à ceux qui ont déjà, on donnera encore plus. Comment en est-on arrivé là, le talent? Qu'est-ce que c'est? C'est un capital, selon cet évangile de Matthieu, cette parabole des talents qu'il faut faire fructifier.
C'est le commentaire de cette parabole a occupé toute la théologie chrétienne depuis le début de l'ère chrétienne jusqu'au 15e, 16e siècle. Et l'idée générale que j'explore dans ce livre et dans un autre qui paraîtra plus tard, c'est que c'est une interaction entre quelque chose qu'on a reçu et des capacités qu'on va mettre en œuvre. Autrement dit, si j'ai reçu quelque chose mais que je n'ai pas la volonté de le développer, ça ne deviendra rien. Et donc, il m'importe et on me fait obligation d'exercer ma volonté ou d'exercer mes capacités et non pas simplement de me reposer sur ce que je reçois par un don divin ou par une loterie, mettons, génétique, etc. Donc, c'est cette interaction entre ce que j'ai reçu et ce que je dois faire pour en prendre la pleine responsabilité et la charge complète qui est évidemment le cœur de la discussion. Et qu'est-ce que c'est que cet exercice de la volonté? Est-ce que c'est une simple manifestation de l'individu qui doit se débrouiller pour agir? Ou bien est-ce que c'est, dans une autre version du commentaire théologique de cette parabole, l'idée de prendre des risques? Autrement dit, celui qui a placé son argent, il risque de le perdre. Et donc, s'il le développe, son argent ou son capital, mettons, de qualité, il peut le perdre ou il peut le développer, le multiplier. C'est une possibilité aussi de développement de l'argumentation. Et en tout cas, l'idée générale, c'est de dire sans doute qu'on ne sait pas ce qu'on est et ce dont on est capable si on n'agit pas.
Et on ne sait pas si le talent, toujours pas, si le talent est vraiment inné ou quelle est sa part d'acquis et si un talent qui ne se cultive pas, un talent sans travail, finalement, reste un talent apparent.
Il faut décomposer l'argument du côté inné, parce qu'évidemment, on peut se précipiter là-dessus pour dire, et c'est tout le procès de la méritocratie que de dire, ok, vous dites, avec un talent et des efforts, pourvu que les conditions de la compétition soient suffisamment égales, tout le monde y arrivera, mais on ne regarde pas trop ce qu'est la dotation initiale des individus. Et comment égaliser la dotation initiale des individus, qui est le produit d'une interaction entre un capital génétique et des conditions sociales tout à fait caractérisables de situation dans l'espace social, voilà un fameux problème. Mais ce qui est vrai, c'est que... Et il y a en permanence... Vous disiez, Claire Simon, tout à l'heure qu'on cherche tous à savoir exactement ce que c'est que ce talent. Il y a en permanence l'idée de trouver le moyen de transformer ça en un algorithme. Dans les sports, on cherche absolument à décomposer l'équation de la réussite en disant telle caractéristique génétique ou physiologique est nécessaire, on va la repérer le plus vite possible et ensuite on va la pousser au maximum par la détection et le développement. C'est toute l'industrie du sport qui est là. Quand on a fait les Jeux Olympiques à Londres, une armada de scientifiques a été sollicité pour donner une analyse la plus complète possible des facteurs de la performance. Autrement dit, donnez-nous des médaillables ou des médaillés d'or, des vainqueurs des Olympiades londoniennes et donnez-nous l'équation. Mais ça ne marche jamais comme ça. Il y a des conditions certainement nécessaires, mais on ne peut pas définir les conditions suffisantes. À ça, c'est absolument certain. Et je parle du sport qui est un exercice où on peut mesurer exactement les différentiels de performance. Il y a d'autres univers où on ne le fait pas du tout de la même manière.
Alors, pas d'algorithme encore pour mesurer le talent des apprentis cinéastes, mais qui sait, le talent est interprété de manière très différente aujourd'hui dans l'art, le sport, l'innovation technologique ou encore le monde de l'entreprise. C'est ce que révèle et souligne cet ouvrage collectif, Pierre-Michel Menger, le talent en débat. On va en venir à votre film, Claire Simon. Le concours, vous avez choisi de filmer le concours d'entrée à la FEMIS, école de cinéma prestigieuse à Paris, parce que le cinéma, avez-vous dit, ça parle à tout le monde. On a tendance à penser qu'on peut, nous, mesurer, détecter le talent à l'écran chez un cinéaste. C'est peut-être pas si simple, et ça l'est encore plus compliqué pour le juré de cette école lors du concours d'entrée. Plus de 1000 candidats, une soixantaine d'élus seulement, de l'arrivée des candidats aux délibérations des jurés. Le film va donc explorer cette confrontation entre deux générations, celle de ceux qui jugent, celle de ceux qui postulent, et le difficile parcours de sélection. Extrait.
Au-delà de tout ça, s'il passe au troisième tour, et je ne sais pas qui sera le jury du troisième tour, mais moi, je n'assumerai pas de lui mettre plus que trois.
Oui, parce que les trois, ce mauvais. Qui me fait chier, c'est que c'est le seul, si tu veux, où je me dis, on est peut-être en train de faire, de plomber un mec.
Non, mais on est peut-être en train de virer un
mec. Voilà. Peut-être un truc.
Tu veux aussi, Cronenberg, il a 18 ans, tu ne vas pas lui dire... Il devait être assez barré aussi, tu vois. Je te dis pas que le mec c'est Cronenberg, mais je te dis bon, c'est non pas parce qu'il
là,
est barré qu'il faut pas.
Tu vois, Dreyer, ça devait pas être la joie de vivre à l'oral, quoi.
Ouais.
Fait qu'ils soient imbuvables, c'est fort possible. Nous, on n'a pas parlé, tu vois. Mais en tous les cas, sur le plateau, voilà, tout le monde était dedans, on était dedans.
C'est ça qui me fait peur, c'est qu'ils payent sa dinguerie après, les mettant en scène dingue. Il y en a, quoi. Et que j'ai pas envie de faire la converse avec lui, alors là, aucun problème. Si tu veux, moi, s'il rentre à Fémis, je pars en courant quand je le vois. Mais il est là, quoi.
Alors, David Cronenberg, le réalisateur, scénariste canadien, était-il ou est-il un grand réalisateur ? A-t-il du talent, tel qu'on essaye de le définir aujourd'hui ? Et ce jeune apprenti cinéaste, réalisateur en herbe, a-t-il tout le talent nécessaire pour entrer dans cette école ? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans la forme du concours, Claire Simon, qui n'est pas propre à la FEMIS ?
Non, mais c'est la question justement de ouais, c'est un château fort, comment on va rentrer dedans, le désir des jeunes gens de rentrer et d'être justement, enfin d'avoir un enseignement de haut niveau, etc. Mais aussi d'être, parce que quand on rentre dans une école comme ça, le fait d'arriver à rentrer fait qu'on est déjà, on a gagné. C'est, il n'y a pas de le diplôme de sortie compte, mais beaucoup moins que le fait d'entrer, quoi. Et moi, j'y ai travaillé, et je trouvais que c'était quelque chose de très fort, ce désir des jeunes gens d'être sélectionnés. Et aussi, ce qui est très spécifique à la FEMIS, à l'inverse de Normal Sup, des autres concours, c'est que c'est la profession qui sélectionne. Donc, d'un point de vue anthropologique, je trouvais ça extrêmement intéressant, c'est-à-dire le fait qu'il y ait comme une forme de une profession choisit ses héritiers. Moi, je l'ai vu comme j'étais directrice du département réalisation. Moi, je n'ai pas fait d'école, et donc je voyais ça avec un. Je trouvais ça c'est une école passionnante, etc. Mais je trouvais que c'était très intéressant de montrer le système et la volonté authentique de tous les participants, c'est-à-dire des jurys qui se posent vraiment des questions très sincèrement, des candidats qui le font avec beaucoup de passion, etc. Mais de pouvoir donner une image de nous-mêmes, parce que c'est nous voulons ça. Voilà. Et je trouve que le livre que j'ai pas eu le temps de lire en entier, mais dont les sujets me passionnent, ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que, lassé de la démocratie, on veut absolument trouver des inégalités et des inégalités devant lesquelles on doit se prosterner, quoi. Il y a quelque chose quand même comme ça qui est très fort. Alors,
c'est-à-dire à quoi vous pensez des inégalités dans lesquelles on doit se prosterner?
Eh bien, le talent, voilà. Lui, il a du talent. Elle n'en a pas, quoi. Donc, alors il faut trouver une raison qui soit indiscutable et justement très peu mesurable. Alors, dans les entreprises, j'imagine que c'est beaucoup plus mesuré. Et quand j'ai dit que le cinéma, tout le monde comprend, c'était d'un point de vue de cinéaste, c'est-à-dire que si j'avais montré le concours d'entrée à sciences, enfin à Polytechnique
ou à l'école normale supérieure,
ou même à l'école normale supérieure, très vite
Menger
la langue est déjà quelque chose qui ferme entièrement, en tout cas par rapport au public. Et je me disais que le public voyant des films comprenait très bien ce qui habitait les candidats. En tout cas, voilà, c'était
Pierre-Michel Menger.
Oui. Claire Simon a été l'objet de l'article de Jean-Louis Fabiani dans le livre, et je pense que Jean-Louis Fabiani a éprouvé une admiration considérable pour le talent du film. Et donc, voilà, ma voisine certainement est dans la catégorie qui, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est le problème, c'est comment est-ce qu'on décide quelque chose comme admettre ou non un candidat sans avoir un critère absolu de choix. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Et il y a des situations de ce type. Soit vous avez des épreuves très normées, vous êtes capable de noter exactement une épreuve, etc., etc. Les concours universitaires comme celui de l'école normale supérieure que vous avez évoqué fonctionnent un peu comme ça, avec la marge d'erreur, évidemment. Il y a des doubles corrections, triples corrections. Vous avez toutes sortes de systèmes pour corriger un peu l'arbitraire du jugement, qui est, encore une fois, pas un jugement de manière sur des critères absolus. Mais il y a des mondes, et le monde artistique en est un exemple. On en a aussi des exemples dans la musique, dans l'architecture. J'étais dans un jury de thèse sur le concours sur la défense. C'était extraordinaire. Je vais peut-être y revenir un instant. Mais on n'a pas de critère absolu de choix. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On délibère. On tâtonne, on accumule de l'information sur les candidats qui se succèdent les uns les autres. L'ordre même de passage peut parfois influer parce qu'au départ, le jury n'a pas de jugement très établi, il n'a pas de critères, donc il va se fabriquer les critères de manière endogène. Et puis, à travers le fil de la délibération, qu'est-ce qui se passe? On fait émerger des qualités, un ensemble de qualités variées qui doivent être réassemblées dans une composante qui va décider oui ou non. Et qu'est-ce que c'est que ces qualités? Ça peut être des qualités d'expression orale, des qualités d'imagination, de vivacité dans l'entretien, des qualités psychologiques, des qualités d'énergie qui démontrent quelque chose comme la volonté de passer au-dessus des obstacles quels qu'ils soient, etc. Il y a beaucoup d'aspects d'une personnalité qui sont mis en jeu et pas simplement une maîtrise technique. Et c'est ça qui rend le sujet du talent, une des raisons pour lesquelles le sujet du talent est intéressant, c'est que l'individu n'est plus dans cette situation-là le simple fils de ses diplômes et a fortiori de la manière dont il a pu les acquérir, qui est une belle machine inégalitaire aussi. Donc, il peut faire valoir des qualités qui sont non captées ou non déterminé par une simple sélection scolaire. On est de toute façon dans un univers de sélection et le talent effectivement résonne avec la question de la sélection et de la compétition, mais on ne le détermine plus de la manière la plus classiquement déterministe qui est...
Mais comme il peut être aussi affaibli, et ça c'est pas forcément une donnée sociale ou culturelle, par son absence d'éloquence, ce qu'on entend dans l'extrait à l'instant du concours.
Hein. C'est tout l'art d'un jury, de savoir quelle est la balance entre les différentes dimensions et de se lui-même de s'infliger, en quelque sorte, la contre-épreuve de dire ne jugeons pas trop vite sur un facteur qui paraîtrait extraordinairement saillant. Ça, c'est un exercice très difficile. Et c'est pour ça que la délibération collective se substitue dans un jugement en incertitude. La délibération collective est le meilleur système possible, sinon c'est l'arbitraire pur et simple. Et c'est là que on peut comparer des univers qui pratiquent depuis très longtemps ce système à d'autres univers qui vont vous classer de manière beaucoup plus arbitraire quand on exporte ce vocabulaire du talent dans des organisations qui, elles, ne vont pas prendre des gants pour pratiquer une délibération collective sophistiquée.
Non, on se pose la question aujourd'hui aussi à travers le cinéma sur cette première année de médecine hyper sélective et le film de Thomas Lilti qui révèle ça aussi. Là, on peut avoir extrêmement bien bachoté, avoir une très grande capacité de mémorisation. Est-ce que ça veut dire pour autant, à l'issue de cette première année, qu'on a gardé que de futurs bons médecins potentiels? C'est-à-dire que ces concours ne travaillent pas aussi la question éthique, la question de la relation humaine à l'issue de cette première année. Là, avec l'école de cinéma La Fémis, comment déceler les talents, ce quelque chose en germe? Comment essayer de départager les singularités? Vous avez le sentiment que le jury, dont vous avez pu faire partie, s'appuie sur quoi? Comme critères subjectifs ou objectifs?
Oh bah c'est bien sûr le, bah, l'idée qu'on se fait de quelqu'un, donc c'est extrêmement subjectif. C'est je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que les jurys collectifs permettent d'apporter plein de divers points de vue et donc de remettre en question justement ces impressions dues à la séduction, à l'entre-soi, etc. Mais c'est aussi des situations, quoi. Un silence total peut apparaître comme le maximum d'un artiste, comme l'ignorance la plus crasse. Et c'est très, on le voit dans le film. Là-dessus, il faut. Je pense que plus il y a un dialogue large du jury, plus quand même on approche quelque chose de plus juste.
Il y a un mot qui revient dans le film aussi, c'est celui du désir. Rechercher l'intensité du désir chez les candidats, ce désir de cinéma.
Oui, oui.
Qui est très subjectif.
Et qui ne devrait pas être un simple désir de réussite. Mais ça, c'est un problème général dans le cinéma, peut-être dans l'enseignement, c'est que comme ça joue beaucoup avec la célébrité et ce qui a à voir avec aussi la question du talent, parfois, le désir est un désir de distinction plus qu'un désir de praticien d'un art, quoi. Mais je pense aussi que c'est très important que les jurys se rendent compte, parce que pourquoi est-ce qu'ils sont jurys? Pourquoi est-ce qu'ils ont le désir? Quand même, ça prend du temps, c'est pas très bien payé, etc. Bon, la FEMIS, c'est par exemple comme un temple du cinéma. Quand on y rentre, ça veut dire quand on vient y travailler, on rentre dans le temple majeur quand même. Il y a ce sentiment comme au Collège de France ou comme, je sais pas, à l'École normale supérieure. Donc on est rassuré de faire partie de ce groupe. Mais en même temps, je pense que c'est très important d'avoir conscience de cette idée de l'héritage, quoi. C'est-à-dire de, comment est-ce que les jeunes gens sont choisis pour continuer ce qui a été réussi, pas complètement atteint par ceux qui jugent. Et voilà. Et là, c'est très compliqué parce que c'est très beau comme chose, quoi. Enfin, moi, je trouve ça très émouvant dans cette idée qu'on transmet et qu'on choisit ceux qui vont pouvoir continuer, si on aime le cinéma d'auteur, le cinéma documentaire comme moi, etc., qu'on veuille que ça continue. Et en même temps, il faut laisser rentrer ce qui est absolument divers et ce dont on n'a pas idée, quoi.
Et imprévisible. C'est
ça. Dans le talent en débat, ouvrage collectif que vous avez dirigé, Pierre-Michel Menger, Jean-Louis Fabiani, qui fait donc une sociologie des formes de sélection à partir du film documentaire Le Concours de Claire Simon, dit que tout concours joue sur deux temporalités. Il constitue une évaluation instantanée, une sorte de tournoi unique, et il est simultanément une épreuve multiple, démultipliable, puisque la performance singulière est toujours décodée comme la matrice de la performance à venir. C'est aussi ça la particularité de cette forme qu'est le concours, c'est que c'est quand même aussi un exercice hyper normé, standardisé, dans lequel il va falloir chercher des singularités.
Oui, vous avez raison de souligner ce point. Claire Simon disait très bien qu'il y a une tension entre un passé à transmettre, et dans les arts, on est très soucieux de mécanismes de transmission. Et Dieu sait si une école doit faire ça. Elle doit transmettre des savoirs, mais elle doit aussi transmettre le désir de dépasser un état donné du savoir. Et ça, c'est l'innovation, par définition. Et donc, le talent est un vocabulaire qui se tient à la ligne de crête entre quelque chose qui sort d'un passé qui vous a constitué, et quelque chose qui s'oriente vers un avenir qui doit être suffisamment imprévisible et incertain pour qu'on ne sache pas au juste exactement ce qui va se passer, sinon on aurait l'algorithme. Et donc, on procède en tâtonnant, nous sommes dans des mondes humains et trop humains, comme dirait Nietzsche, où il faut pouvoir procéder avec beaucoup de doigté sur des questions de ce genre. Une des choses qui permet tout de même de corriger un peu le caractère de tranchant et de couperet d'un concours, c'est qu'en fait, ces carrières qui sont tellement attirantes et tellement désirables sont faites de multiples épreuves de comparaison, etc. Et que vous n'êtes pas un rentier. Quand on a acquis un peu de notoriété. Cette notoriété peut disparaître. Elle est ce que vous venez de faire. Elle n'est pas simplement la compilation complète de tout ce que vous avez été auparavant. C'est, le vocabulaire de talent, en ce sens, a été un vocabulaire de lutte contre la rente. La rente du statut, la rente des origines, contre l'ancien régime contre lequel la Révolution française s'est battue en disant on va ouvrir toutes les carrières aux talents. Et c'était une manière de dire attention, nous ne sommes pas le produit d'un passé accumulé que nous pouvons gérer les uns bien et les autres mal parce qu'ils n'ont rien. Et donc, comment est-ce qu'on met en œuvre une pareille technologie sans la faire basculer dans une sorte d'identification essentialiste que vous avez rappelé, Claire, du type celui-là, il en a, celui-là, il n'en a pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si c'était ça, ça voudrait dire qu'on aurait rabattu un vocabulaire de tâtonnement prudent vers un vocabulaire de la classification et de la différenciation rigide, déterministe, qui n'a pas du tout, qui a un impact social considérable, mais qui ne fait pas avancer les affaires du domaine en question, parce que l'innovation, la recherche, l'originalité en art ne fonctionnent pas comme ça.
France Culture, il est 13h22 avec nos invités, le sociologue Pierre-Michel Menger et la cinéaste Claire Simon. Le talent en question, on va continuer à farfouiller dans cette boîte noire du talent ensemble jusqu'à 13h30.
France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
De Audrey Azoulay à François Fillon, pour ne citer qu'eux, ils n'ont cessé de louer son talent. Jusqu'à Pierre Moscovici, qui en février dernier voyait en Emmanuel Macron un pur talent politique, probablement le plus pur que la France ait connu depuis Mitterrand. Une trajectoire éclair jusqu'au sommet de l'État qui en serait le fruit ou le symptôme. De son côté, partisan de la maxime « les critiques suivent le talent », Emmanuel Macron est un partisan, ça c'est sûr, de la méritocratie par concours, du talent comme arme, outil de lutte contre les inégalités.
Ce qui s'est installé avant tout en France, ce sont les inégalités de destin. Selon l'endroit où vous êtes né, la famille dans laquelle vous avez grandi, l'école que vous avez fréquentée, votre sort est le plus souvent scellé. Et ces inégalités de destin, durant les 30 dernières années, ont progressé dans notre pays, qu'on veuille le voir ou non. Et pour moi, c'est cela qui m'obsède. Le modèle français de notre siècle, le réel modèle social de notre pays, doit choisir de s'attaquer aux racines profondes des inégalités de destin, celles qui sont décidées avant même notre naissance, qui favorisent insidieusement les uns et défavorisent inexorablement les autres, sans que cela se voie, sans que cela s'avoue. Le modèle français que je veux défendre exige que ce ne soit plus la naissance, la chance ou les réseaux qui commandent la situation sociale, mais les talents, l'effort, le mérite.
Le talent revalorisé aujourd'hui sous Emmanuel Macron, mais comment ? Est-ce que vous entendez dans ce discours, Pierre-Michel Menger, une nouvelle forme de valorisation ou d'adoption du talent ?
Le sujet du talent et de la méritocratie est un sujet qui tambourine depuis deux siècles, avec une variation entre la critique radicale de ça et la célébration de ça. Et il s'est ajouté une couche supplémentaire qui est que le talent est un vocabulaire désormais mondial. Le mot talent se traduit est le même dans 25 langues, au moins. Donc c'est un passeport de circulation internationale des gens qui sont plutôt qualifiés que pas. Et le point essentiel de toute cette discussion qui a toujours eu lieu sur qu'est-ce que vaut cette idée de méritocratie, d'égalité des chances, etc., contre une autre forme d'égalité qui est de comprimer toutes les inégalités de résultats, de salaire, de position dans la société, etc., ce sont deux visions totalement opposées. Le problème qui s'est posé toujours dans cette affaire-là, depuis la Révolution française et depuis la philosophie des Lumières, c'est comment fabriquer un système éducatif qui fonctionne vraiment pour prendre en charge toutes les différences individuelles, celles dont on est responsable soi-même, comme celles dont on ne peut pas être responsable, ce qu'on peut contrôler et ce qu'on ne peut pas contrôler, et les familles comprises, et comment est-ce qu'on peut développer un système éducatif qui offre effectivement, qui égalise progressivement les chances. Et c'est pour ça que Condorcet, que Rousseau, que bien d'autres sont allés voir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire dans le système éducatif la différence avec un système reproductif. Parce que La reproduction est très simple. Et évidemment, et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'éducation est un processus lui-même extraordinairement complexe et fragile. Il n'est pas simplement l'affaire des familles, de l'école. Il est aussi l'affaire des familles. Et il est aussi l'affaire de la société. Et c'est ce triangle-là qu'avait déjà évoqué Hannah Arendt, qui est un triangle extraordinairement puissant, mais complexe. Parce que les familles ne peuvent pas renoncer à l'idée qu'elles doivent donner le meilleur à leurs enfants, mais l'école doit rétablir la justice entre ceux qui ne peuvent pas obtenir de leur famille tout ce que celles-ci transmettent. Et la société doit arbitrer entre tous ces conflits de valeurs pour mettre en route ce mécanisme d'égalisation des chances dans des sociétés qui sont extraordinairement compétitives aujourd'hui au plan mondial. C'est considérable. Et si vous ajoutez une autre couche qui est, dans l'économie de la connaissance aujourd'hui, le pouvoir considérable de l'innovation et des technologies, qui sont des instruments de polarisation, vous voyez qu'on a une matrice de redéfinition complète des mécanismes d'inégalité et de correction des inégalités qu'il faut, littéralement, il faut reconstruire cette chaîne pour savoir où sont les points d'intervention possibles. Et il y en a, mais il faut les identifier très précisément. Il n'y a pas de réponse magique unidimensionnelle. Ça passe par l'interaction. Les familles jouent un rôle gigantesque qu'on a peut-être un peu sous-estimé progressivement en pensant que l'école pouvait tout prendre en charge, mais c'est l'interaction entre tous ces facteurs qui a un poids démesuré aujourd'hui, et on le voit à travers toutes sortes d'expérimentations qui impliquent ensemble les familles, les institutions scolaires, l'expérimentation sur les modèles pédagogiques et qui sont des outils pour lutter contre une tendance qui est visible à la polarisation entre les gens très qualifiés qui vont bénéficier des innovations technologiques et les autres qui vont être à la remorque et qui vont effectivement subir les dégâts d'un progrès qui est très fort.
Donc il va falloir inventer des correcteurs de talent, des garde-fous.
Il faut inventer sans arrêt, et aujourd'hui encore plus qu'avant, en prenant la personnalité des individus, non pas comme simplement le produit d'un diplôme qui dit tout, mais comme une personnalité qui se développe et se transforme dans le temps. Et donc l'école de la seconde chance, les dispositifs de modification des protocoles pédagogiques, je vois aujourd'hui le terrain de la formation continue est énorme. Il se développe à une vitesse folle. Et c'est ça qu'on veut extraire de ces mots comme le talent, c'est de dire il y a un développement qui ne s'arrête pas à la fin de l'école, parce que le monde se transforme autour et qu'il faut prendre en charge ces transformations. C'est un projet collectif à très grande échelle et qui concerne les organisations, concerne les entreprises, qui concerne les individus. Et c'est une sorte de d'état d'esprit ou de mindset, comme dirait l'anglais. C'est-à-dire, et quand je pense aux arts, par exemple, quelle est la séduction extraordinaire d'un métier artistique? C'est que vous apprenez au fur et à mesure que vous l'exercez. La teneur en formation d'une activité ou d'un travail est quelque chose qui fait la différence entre un travail qui a de l'intérêt, qui est variable, et un travail qui est promis à la répétition.
Merci beaucoup à vous, Pierre-Michel Menger. Merci mille fois, Claire Simon. J'aurais bien aimé vous poser une question, mais peut-être on fera ça hors antenne, au micro quand même de France Culture, et vous retrouvez sur la question aussi du talent des réalisateurs et des femmes réalisatrices aujourd'hui, en réaction à ce que disait Alberto Barbera, qui a eu du mal à trouver des femmes pour sa sélection à la dernière Mostra de Venise, qui préférerait changer de métier plutôt que d'être obligé de sélectionner un film parce qu'il a été réalisé par une femme et non parce qu'il est réussi. Voilà, cette question de l'égalité et de la parité homme-femme dans le cinéma sur lesquelles vous avez pas mal milité et travaillé. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toute l'équipe de La Grande Table, à la réalisation aujourd'hui. Marie Placet avec Jean Frédérics. Demain, rendez-vous avec Noémie Lvovsky et Armut Rosa pour une grande table de la culture et des idées.